Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine et au centre de la classe aujourd'hui, Molière. Il aurait 400 ans cette année, mais ses sujets n'ont pas une ride. L'oppression des femmes, l'hypocrisie religieuse, l'avarice, la tromperie, l'arrogance sociale, la vanité. Comment les enseignants s'emparent de cette langue devenue certes difficile pour les jeunes, pour les élèves, mais qui permet de nourrir des débats très contemporains. Vous avez la parole, professeur ou ex-élève, vous pouvez nous raconter ce que Molière vous a tout simplement enseigné sur l'humanité. Appelez-nous sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Nous sommes en ligne avec une enseignante, Claire Berest, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de lettres au lycée de Liroise à Brest et vous allez nous raconter comment vous faites entrer les élèves dans une langue et des intrigues du XVIIe siècle. C'est quand même pas si simple. Hein. Et également à mes côtés, Yann Novak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, professeur de français, fondateur de Dramducation au Centre international du théâtre francophone en Pologne et fondateur du programme 10 sur 10. Le concept du programme 10 sur 10, c'est 10 auteurs francophones qui écrivent 10 pièces de 10 pages avec 10 personnages et tout ça en 10 jours. Vous allez nous raconter comment des auteurs ont travaillé à partir des pièces de Molière. Nous sommes aussi en ligne avec Claude Bourqui, professeur de littérature française, spécialiste de Molière et du théâtre européen du XVIIe siècle à l'université de Fribourg en Suisse. Bonjour Claude Bourqui.
Bonjour.
Vous êtes aussi co-directeur de l'édition des œuvres complètes de Molière chez Gallimard, la fameuse collection La Pléiade. Et puis en fin d'émission, un tout autre sujet, notre chronique habituelle du psychologue Ibrahima Girou. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comment parler de la mort aux enfants ? Alors je vous lis quelques messages postés par nos auditeurs sur notre sujet Molière, 400 ans cette année, comment il est encore au cœur de nos préoccupations et de nos débats. Alors il y a le cri du cœur du Seine à Kinshasa en RDC, dire, ah, le malade imaginaire, les femmes savantes, l'avare, le médecin malgré lui, Don Juan, il était génial ce monsieur. Il y a Mohamed qui est à Porto Novo au Bénin. J'aime moi la complexité de la psychologie des personnages. J'adore lire Molière et son théâtre. Que j'apprécie, la pièce que j'apprécie le plus, nous dit Mohamed, c'est Le Malade Imaginaire, mais L'Avare aussi reste une pièce inoubliable et son adaptation cinématographique avec Louis de Funès, qui est pour moi la meilleure comédie qui soit. Et puis il y a la nouvelle génération aussi, Khadija, 18 ans au Sénégal. En classe de première, on a étudié les œuvres de Molière, à savoir Le Malade Imaginaire et Les Précieuses Ridicules. J'aime l'originalité et l'ironie de Molière, surtout dans Les Précieuses Ridicules. Et puis écoutez aussi le message de Modibo, il est au Mali.
Bonjour, 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 7 milliards de voisins, Jean-Baptiste Pouguelé, alias Molière. Je vous dirais que Molière est mon auteur favori. Son roman L'Avare, j'ai eu à moi s'il a exposé ce roman en long et en large. À travers ça, j'ai beaucoup appris à connaître cet homme-là et j'ai retenu beaucoup de ses pièces de théâtre. C'est vraiment instructif. Même au Mali, je suis professeur de français et L'Avare est inclus dans les programmes officiels au niveau de la 8e année. Vraiment, je vous remercie.
Merci beaucoup à Modibo. Il est en cours, il ne peut pas être en direct avec nous aujourd'hui. Professeur de français au Mali. Si vous êtes enseignant et que vous n'êtes pas dans votre salle de classe et que vous parvenez à créer des débats de société avec vos élèves grâce à l'œuvre de Molière, à partir de l'œuvre de Molière, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'y refais le monde avec 7 milliards de voisins.
Claire Berest, dites-nous déjà quelle est la place de Molière dans les programmes scolaires en France?
Pour ce qui est du lycée, parce que je connais moins les programmes de collège, pour ce qui est du lycée, le Molière est au programme. La pièce de Molière, Le Malade Imaginaire, est au programme de première. pas dans un corpus de trois pièces, donc les collègues choisissent une des trois pièces au programme, et parmi ces trois pièces, il y a le malade imaginaire de Molière. Moi, je n'ai pas de première cette année, donc je n'ai pas travaillé sur cette pièce. Mais en classe de seconde, on a une ouverture, une plus grande ouverture de choix, puisqu'on n'a pas de pièce ou de roman ou d'œuvre imposée. Donc, on a ce qu'on appelle des objets d'études. Et dans les objets d'études, il y a un objet d'études qui est autour du théâtre du XVIIe au XXIe siècle. Et là, l'enseignante choisit les œuvres qu'il a envie un peu de travailler. Et moi, je travaille toujours sur une pièce de Molière, et en particulier sur l'école des femmes, dans ce cadre-là, au niveau de la classe de seconde.
Oui, mais vous ne choisissez pas chaque année la même pièce, hein.
Ça peut changer. Donc, j'ai travaillé aussi assez souvent sur Tartuffe avec des élèves, parfois en classe de première quand c'était possible. Mais sinon, là, depuis quelques années, je reviens assez facilement et, je veux dire, par passion sur l'école des femmes, puisque j'ai une grande passion pour cette pièce. Et donc, je ne perds jamais le désir de la retrouver, de la retravailler, de la découvrir avec des élèves. Donc, elle revient très souvent dans mes choix.
C'est la passion personnelle qui vous guide, ou il y a aussi parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui colle entre la pièce et vos élèves et l'époque ?
Ah, je pense que c'est clairement les deux. Alors, c'est évidemment une passion personnelle, certainement, hein, mais ça fonctionne, en fait. Donc, si je la garde, c'est parce que ça fonctionne auprès des élèves. Ça entre en résonance avec des problématiques, avec des questionnements, avec leur âge en plus, parce que dans l'école des femmes, comme dans d'autres pièces de Molière, hein, dans l'école des femmes, le personnage principal d'Agnès est à peu près l'âge de nos élèves. Donc il y a forcément une sorte d'identification.
Ouais.
Et puis elle entre en...
Alors rappelons qu'Agnès qui est maintenue dans l'ignorance, hein.
Voilà, c'est ça. Alors Agnès,
pour rester vertueuse.
Voilà, pour situer un petit peu la pièce, Arnolphe, qui est un monsieur d'une quarantaine d'années quand la pièce commence, il a 42 ans, a rencontré Agnès quand elle était toute petite. Il l'a, par une espèce de circonstance, quand elle avait 4 ans, il l'a repérée. Le texte dit que Arnolphe dit lui-même que quand il l'a vue, il l'a aimée dès qu'il l'a vue. Et il l'a, du coup... élevée, c'est-à-dire qu'elle était élevée par une paysanne qui se présentait comme étant sa mère, alors qu'elle n'était pas sa mère en réalité, on le sait plus tard dans la pièce. Et il a proposé de l'élever pour lui donner une bonne éducation.
C'est ça.
En fait, pendant des années, il va l'enfermer dans un couvent et lui donner une éducation pour la rendre la plus bête possible. Et il va mener une sorte d'expérience, une espèce d'utopie un peu folle, dans laquelle il décide d'en faire la femme idéale. Et c'est la femme idéale étant pour Arnolphe une femme soumise, qui est ignorante, qui ne connaît rien de la vie, et qui va pouvoir du coup lui être parfaitement obéissante.
Oui,
et donc la pièce va raconter la rencontre Agnès devenue beaucoup plus... Voilà, quinzaine d'années, entre 15 et 18 ans, quand la pièce démarre, et raconte une sorte d'émancipation d'Agnès par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, et en partie parce qu'elle rencontre aussi l'amour à ce moment-là.
Oui, alors pour créer la soumission, il faut d'abord installer quelqu'un dans l'ignorance. C'est quand même un sujet qui nous parle à l'heure actuelle.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc la pièce va s'articuler autour de ça, et comment le personnage d'Agnès va petit à petit réussir à s'émanciper et à prendre conscience de son ignorance, parce qu'elle dit elle-même qu'elle a conscience d'avoir été, elle souffre, parce qu'elle se rend compte qu'elle est en fait idiote.
Oui.
Et elle va apprendre à dépasser cette bêtise par l'expérience que la vie va lui donner et à se révolter.
Yann Novak, vous qui vivez en Pologne et qui travaillez avec des jeunes francophones, comment ces thématiques-là sont perçues par les jeunes ?
En fait, en Pologne, on a un problème, c'est qu'on ne travaille pas les œuvres complètes de Molière parce que c'est trop difficile.
Ben oui,
en général, on travaille uniquement les fragments traduite en langue polonaise. Mais moi, j'ai l'habitude de travailler avec ceux qui parlent ou ceux qui apprennent le français. Donc,
l'ensemble de l'intrigue et de l'histoire est bien connu et bien raconté, en tout cas.
Absolument.
Ça, il y a une transmission là-dessus, en tout cas.
Oui, absolument. On a toujours un résumé de la pièce et des fragments pour analyser directement les écrits de Molière. Et c'est assez difficile. Ok, on a lu le résumé, on comprend de quoi ça parle, mais quand vous avez que des fragments, ça ne vous donne pas l'image complète. Ça raconte une scène, et sur cette scène, vous ne pouvez pas vous faire une idée globale de sujet. Parce que Molière, c'est trop difficile. Et en plus, en Pologne, ce n'est pas notre auteur, soi-disant, national. Donc, on le travaille juste un tout petit peu. Mais après, quand vous étudiez le français, là, vous êtes affronté à Molière dans toute sa splendeur. Et là, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, mais il y a toujours un petit cloche, c'est que la langue et les situations, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à se les approprier et faire vraiment les parallèles entre le monde d'aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a 400 ans.
Les fameuses références culturelles d'une époque, hein, Claude Bourqui. Et malgré ces difficultés de la langue, malgré ces références culturelles qui ne collent pas, Molière est quand même vivant 400 ans après sa naissance. Comment on parvient à dépasser ces freins ?
Bon, ça tient en premier lieu sans doute aux pratiques comiques de Molière lui-même, qui reposent sur des recettes qu'on peut considérer universelles. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a cité tout à l'heure l'exemple de l'avare de Molière joué, mise en scène au cinéma et joué par Louis de Funès. Hein. Je veux dire, on a pu l'adapter parfaitement au cinéma parce qu'il y a toute une série de jeux de scène qui reposent sur la grimace, de quiproquos, qui sont des recettes universelles. Mais par-dessus cette première réalité, il y a bien évidemment ce qu'on était en train d'explorer ici, c'est-à-dire les résonances avec la situation de toutes sortes de réalités humaines un peu partout dans le monde, et y compris sur le plan de la vie personnelle des gens. Ce qui était raconté aussi tout à l'heure à propos de l'école des femmes, de l'émancipation d'Agnès, tient aussi, par exemple, dans le cas de ce personnage-là, on ne l'a pas encore souligné, à la découverte de la sexualité. Si Agnès, tout à coup, se révèle à elle-même, c'est parce qu'elle découvre l'amour, elle découvre la sexualité au travers des tentatives que fait le galant qui cherche à l'approcher, qui sera donc le rival du personnage de vieux Barbon qui la garde. Et c'est ça qui lui permet, entre autres, de se libérer complètement. Donc là aussi, par rapport à un public juvénile, ça peut faire écho de nouveau également.
Claire Berest, vous partez des ressorts psychologiques des personnages pour ensuite arriver à des débats plus larges de société. Comment vous faites ?
Alors, l'idée, c'est que quand on aborde la pièce avec les élèves, c'est d'essayer de voir avec eux ce qui s'est passé avant, en fait. Donc la pièce, elle dure 24 heures. Enfin, l'école des femmes, par exemple, dure 24 heures. Et comme ça dure, l'histoire s'étend sur un temps qui est relativement court, il y a beaucoup d'informations qui sont données sur ce qui s'est passé avant. Et donc, on va aller chercher avec les élèves les éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour essayer de comprendre les personnages, ce qui leur est arrivé, et donner une sorte d'épaisseur aux personnages.
Un peu comme une enquête, finalement.
Voilà, exactement comme une enquête. Donc, on va chercher ce qu'il y a eu avant. Et dans le texte de Molière, dans le texte, dans les plis du texte, on a finalement beaucoup d'informations qui sont données sur ce qu'Arnolf a fait, sur ce qui est arrivé à Agnès, ce qui est arrivé à Horace, son amoureuse, qui est arrivée aux parents aussi d'Agnès, pour essayer de comprendre comment Arnolf a pu en arriver à ce projet complètement fou, et comment Agnès, elle, a été construite par rapport à cela.
Oui.
Donc ça donne en fait une épaisseur au personnage sur lequel on s'appuie, on se raconte l'histoire en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé à Arnolf ? Et du coup, quand la pièce commence, en fait, les élèves sentent qu'on est proche de la fin de quelque chose, en fait.
Yann Novak, vous souhaitez intervenir ?
Oui, sur l'école des femmes, parce que dans le programme 10 sur 10, Emmeline Octavi, une autrice de Guyane, a réécrit cette pièce en format 10 pages. Et cette pièce marche extrêmement fort en Tunisie. Même parce que le programme 10 sur 10 est présent à peu près sur tous les continents. Et j'ai pu constater que les femmes tunisiennes, les étudiantes, jouent beaucoup cette pièce. Et ça a un écho énorme en Tunisie, où le problème de l'école de femmes dans la culture, c'est tout à fait actuel. Donc, selon les pays, selon les continents...
C'est les talibans, hein, l'ignorance et la vertu.
Oui, absolument. Donc, on a eu déjà des mises en scène, des dizaines de mises en scène de cette pièce par des étudiants, par des étudiantes, pour souligner cette question en Tunisie.
Quand même, revenons à l'obstacle de la langue, Claire Berest. Comment vous faites ? Parce que les jeunes de cette génération aujourd'hui ne comprennent pas la langue de Molière.
Oui, tout à fait. Alors, la première chose que je leur dis, c'est qu'on ne va pas tout comprendre.
Oui.
Et que c'est normal de ne pas tout comprendre.
Il y a des passages qu'on comprend.
Voilà, il y a des passages qu'on comprend, mais il y a des passages qu'on ne va pas comprendre. Et ce n'est pas très grave de ne pas les comprendre. Donc, je commence en général le travail sur la pièce. Les élèves la lisent un peu en parallèle, mais on prend des morceaux. On va à un rythme qui est, je dirais pas lent, mais enfin, qui essaie de respecter leur propre rythme d'appropriation. Et je leur montre, parce que je travaille beaucoup avec des mises en scène aussi, on essaie de travailler autour de la question de la représentation de la pièce. Et je leur montre au moins les 20 premières minutes. Et on s'arrête régulièrement pour essayer de comprendre ensemble ce que le texte dit. Donc, on passe en fait par une autorisation à simplement paraphraser le texte et à faire ce qu'on peut appeler une sorte de paraphrase éclairante du texte, c'est-à-dire qu'on se le raconte entre nous. Et si on ne comprend pas tout, ce n'est pas très grave. On va aller après zoomer sur quelques éléments de la pièce qui sont peut-être plus accessibles et surtout plus intéressants. Et le travail aussi d'appropriation du texte se fait avec les mises en scène que l'on peut regarder, que l'on peut comparer, que l'on peut imaginer ensemble, ou les décors aussi.
On va bien sûr y revenir. Vous restez avec nous, on vous donne la parole, les voisines et les voisins, si les pièces de Molière vous ont permis de discuter de débats de société avec vos amis, en classe, avec vos élèves. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Raïssa qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Raïssa.
Bonjour Emmanuel.
Raïssa, vous avez étudié le misanthrope il y a quelques années déjà, hein, même si vous êtes encore jeune, vous avez 30 ans, mais vous aviez envie de partager avec nous ce que cette pièce de Molière vous a fait découvrir sur l'humanité, le misanthrope.
Oui, déjà il faut noter que c'est à l'étude de cette œuvre que j'ai commencé à aimer la littérature.
Ah, oui.
Bon. Et ce caractère hypocrite qu'il met en évidence tout en gardant un semblant d'humour, vraiment, c'est très, 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 très intéressant. Et à partir de cela, on comprend qu'il ne sert à rien de toujours vouloir plaire à tout le monde dans la mesure où on finit par se perdre soi-même.
Oui. Alors peut-être, juste, c'est intéressant que vous souligniez ce caractère du misanthrope. Claude Bourqui, le misanthrope aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de moderne ? C'est pas quelqu'un qui serait sur Instagram, hein, ça c'est sûr.
Non, mais il y a, de manière générale, la question essentielle qui est posée par la pièce, que vient en quelque sorte de reprendre l'auditrice, c'est confrontée à l'adversité, au problème de la vie, en quelque sorte, quelle est l'attitude à adopter, hein. Est-ce qu'on doit absolument tenter de résister, de se braquer ? Est-ce qu'on doit opposer une résistance générale au monde ? Ou est-ce qu'on doit être conciliant avec le monde ? C'est des situations qui, à divers niveaux, dans toutes sortes d'expériences de vie, sont vécues quotidiennement, un peu partout. Donc là, le cœur de la pièce même est extrêmement pertinent à l'égard du vécu général des individus humains, en quelque sorte.
Raïssa ?
Oui.
Vous avez étudié aussi l'avare, je crois, en classe de 4e.
Oui. Oui, j'ai bien aimé l'avare, surtout le caractère de... Vous allez m'excuser, le nom du personnage, ça fait très longtemps que j'ai vu. Qui fait des cauchemars alors qu'il n'en est rien. Il imagine qu'on lui a plus. Lui, de finesse, interprète très bien cela.
Oui, c'est bien d'entendre votre sourire, parce que finalement, ce souvenir, il est encore très, très vivace dans votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez avec les élèves qu'il y avait cette perception de l'humour, de la moquerie du personnage?
Les élèves, ils aimaient bien interpréter les rôles, quitte à ce qu'ils proposaient même souvent à l'enseignant de faire ce jeu de rôle-là pendant la lecture.
Et tout le monde voulait faire Harpagon, c'est ça?
Toujours.
Claire Berest, merci de nous avoir appelé, hein, Raïssa, et bien sûr vous pouvez continuer de nous téléphoner. Claire Berest, il y a des réactions de vos élèves qui vous étonnent parfois quand vous étudiez Molière avec eux ou pas ? Ou comme vous dites, vous avancez pas à pas, vaillamment, mais quand même dans la difficulté.
Moi, ce qui m'étonne, c'est le moment où ils se rendent compte de l'extrême modernité, de la grande proximité. Alors, c'est pas que ça m'étonne, parce que Je le vois revenir, je dirais presque à chaque fois. Mais il y a un moment où il y a quelque chose qui se passe dans le groupe où, du coup, le langage se libère, hein, et ils se mettent à employer des mots qui sont extrêmement modernes, en me disant « mais c'est dégueulasse, mais qu'est-ce qui se passe, mais madame, mais en fait, c'est un pédophile, mais c'est quoi ?» et du coup, la parole, à ce moment-là, se construit. Alors après, on y réfléchit ensemble, etc. Mais c'est toujours un bonheur, quoi, ce moment où ils se rendent compte que c'est là, en fait, que c'est là.
C'est le moment où ils s'emparent du texte, finalement, quand ils le réécrivent avec leurs propres mots, qu'ils le racontent, avec évidemment aussi leur propre curseur de jugement, qui n'a rien à voir avec l'époque du XVIIe siècle. Mais ça veut dire qu'ils s'emparent du texte, finalement.
C'est tout à fait ça. Il y a un moment qui est toujours éblouissant, pour moi, si je puis dire. C'est le moment où, quand on lit le début de la pièce, à un moment donné, Arnolf dit qu'il a rencontré Agnès quand elle avait 4 ans.
Oui, donc on est bien dans l'école des femmes, hein, là.
On est dans l'école des femmes, oui, on est toujours dans l'école des femmes. Et donc, il dit qu'il est tombé quasiment amoureux d'elle. Enfin, ce n'est pas tout à fait le terme qu'il emploie, mais c'est quasiment, hein, puisqu'il dit que son air doux, je crois, dit le texte, lui a inspiré de l'amour dès qu'il a 4 ans. Et là, j'arrête le texte, soit parce qu'on le garde, soit qu'on est en train de le dire. J'arrête et je me tais et j'attends. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est-à-dire que l'idée que... Alors, on peut se dire que Molière n'emploie pas le mot amour dans le même sens, mais pour eux, mettre dans ce même vers le fait qu'elle inspire de l'amour alors qu'elle a 4 ans... Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça y est, la partie va être je peux gagner la partie parce que ça y est, c'est parti, il y a quelque chose qui est en place, il y a une réaction qui se met en place à ce moment-là.
Vous restez tous avec nous. Comment enseigner Molière et susciter des débats de société dans la classe? Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Quand Kerry James réinterprète Molière pour les 400 ans de sa naissance, ça donne ça.
Épargnez-moi donc vos applaudissements moins éloquents que vos silences. Vous qui ne distinguez point entre l'artiste et l'interprète transparent. Vos éloges sonnent creux, des coquilles vides. Je n'y trouve point de consistance. Je m'exilerai loin de vous, que se couchent mes jours près du soleil levant. Non pas que je déteste tous les êtres humains, je n'en ai pas la vanité. Mais je ne puis accorder mon cœur à chacun, m'en empêche ma lucidité. M'en empêche mon honnêteté, que cela soit entendu. Sous les toits de mon cœur ne s'abrite pas le premier vendu. Moi je veux pouvoir regarder l'injuste dans les yeux et lui dire « Injuste ». Tu as été. Car passer sous silence une injustice que l'on peut dénoncer, c'est être un diable muet. Alors comprenez que je ne puisse mettre sur le même pied d'égalité et traiter avec la même dureté ou bonté l'oppresseur et l'opprimé, le gouvernant, le gouverné, le gilet jaune et le banquier, le petit-fils de tirailleurs sacrifiés qui ne se sont toujours pas français et le descendant de colons qui craint subitement d'être grand remplacé. Ah, ce grand remplacement, devenu programme politique qui, je dois le rappeler, au risque d'instaurer un malaise, naquit ici même sur un plateau télé. Alors comprenez qu'en homme libre, j'interroge cette société du tout sanitaire qui, je pense, ne trouverait grâce aux yeux de l'auteur du malade imaginaire. Choquant. Et alors, comment le poète congolais le dit ? Plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à n'importe qui.
Claude Bourqui, vous qui êtes professeur de littérature française, spécialiste de Molière, qu'est-ce que vous pensez de cette réécriture de Kerry James, rappeur? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et peut-être il faut nous le décoder par rapport au texte d'origine. Il part du misanthrope.
Par rapport au malade imaginaire.
Oui,
effectivement. Bah, effectivement là, bon, le malade imaginaire raconte l'histoire d'un individu qui est absolument obsédé par l'évolution de sa santé, hein, qui consacre, comment dire, toute son énergie et qui sacrifie même tout le bonheur de son entourage. Et à ce titre-là aussi, il est absolument sous la coupe des médecins qui prennent le pouvoir sur lui et qui, dans l'idée de Molière à l'origine de la pièce, hein, sont parfaitement substitutifs des gens de religion. En quelque sorte, le malade imaginaire, dans les faits, raconte non pas à la base le rapport d'un individu à la santé, mais de manière voilée le rapport d'un individu avec le pouvoir que peut prendre sur lui la religion. Et toujours est-il qu'il y a les médecins qui entourent le personnage en question, hein, qui s'appelle Argan. Et donc, cette obsession médicale fait un peu l'histoire de toute la pièce, hein, jusque finalement au dénouement, hein, qui est lui-même, comment dire, empreint d'une certaine sagesse, hein, puisque quelqu'un qui sera comme ça obsédé par un problème de ce type-là, on ne peut pas réagir contre lui en argumentant, en essayant de lui démontrer que ses craintes à l'égard de sa propre santé sont infondées, mais il faut contourner le problème en lui donnant en quelque sorte de la médecine, et on va transformer le personnage d'Argan, en quelque sorte, on va le nommer dans une cérémonie grotesque, lui-même médecin, et comme ça, en quelque sorte, son problème est résolu.
Oui. Alors, il évoque aussi
l'histoire que raconte le malade imaginaire.
Oui. Il évoque aussi le misanthrope, hein, Kerry James, si je ne me trompe pas.
Il évoquait de nouveau le misanthrope, d'après ce que j'ai compris, sous l'angle qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, hein, c'est l'être de résistance, en quelque sorte. Hein. Et de ce point de vue-là, l'interprétation de la pièce est très ambiguë. Hein. On peut être fasciné par ce personnage d'Alceste, hein, trouver que c'est une espèce de héros moderne, quelqu'un qui est capable de résister à l'adversité, de se battre...
À la vanité du monde.
Dans le monde, pour que le monde change. Hein. Ça, c'est comme on l'a souvent vu. Rousseau était un admirateur absolument inconditionnel du misanthrope. Hein. Le personnage avait même la figure d'une espèce de mythe personnel pour lui. Ou on peut, au contraire, y voir un personnage ridicule. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui, tout le temps, va se heurter contre la vitre, va ne parvenir à rien changer et va se mettre, en quelque sorte, en rupture avec tout l'entourage. Hein. Je vous rappelle que la pièce finit. Hein. Alceste, à la fin, n'a pas d'autre alternative que de se retirer du monde, de partir au désert, comme il dit, hein, de se retirer de la société. Hein,
ouais,
c'est la manière dont le monde fonctionne.
Dans son obstination, en tout cas. Yann Novak, alors vous faites écrire des pièces pour des jeunes non-francophones. Hein. Racontez-nous justement là comment... parce que là, il s'agit vraiment d'une nouvelle création. Hein, et on a l'impression qu'avec Molière, ça, on pourrait créer à l'infini, finalement.
Oui, absolument. On a réalisé ce projet de réécriture des pièces de Molière avec la Comédie Française. En sélectionnant des auteurs, on leur a demandé de garder l'histoire, mais de l'actualiser et de la mettre sur les 10 pages.
À partir de 15 pièces. Hein,
Oui, à partir de 15 pièces, les pièces les plus connues de Molière. Et les auteurs, pendant 10 jours, devaient vraiment se creuser la tête. Qu'est-ce que je ferais de malade imaginaire, de misanthrope, de tout ça aujourd'hui? Comment actualiser la langue pour rester quand même assez fidèle à Molière et à son histoire? Il devait par exemple garder les personnages. Donc les personnages, c'est des personnages de Molière. Mais comment en 10 pages raconter cette histoire avec la langue d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui? Donc vous retrouvez par exemple dans l'avare, c'est Donald Trump qui représente l'avare. Il y a aussi des précises ridicules, c'est des youtubeuses, des influenceuses qui sont sur les réseaux. Pour Souleymane Ba, un auteur guinéen, le médecin volant, c'est le marabout volant. Donc, chacun a essayé d'adapter ça à la situation d'aujourd'hui.
Je vous propose d'écouter un extrait de la pièce Le Procès, inspiré de la pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin,
oui,
écrit par la dramaturge canadienne Isabelle Hubert.
Consternation dans la petite bourgeoisie locale, on apprend que le valet Scapin, à l'emploi du sieur Géronte, bien connu pour ses frasques et ses coups d'éclat, fait l'objet ce matin de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de coups, blessures et humiliations auprès de son maître et d'un ami de celui-ci, le sieur Argante. En studio, sur les réseaux sociaux et un peu partout dans les chaumières, notre panel d'experts analyse.
C'est formidable, le valet est un malotruche, tout ce qu'il mérite.
Affligeant. On dirait des enfants dans une cour d'école.
Encore de l'argent pris directement dans les poches des contribuables.
C'est absurde, mais où va la justice?
Je vous prédis que ça va s'éterniser.
Mais on n'est pas prêt de le voir aboutir, ce procès.
En attendant, le valet court toujours.
Alors, c'est extraordinaire, ces pièces, parce qu'effectivement, ça enlève les deux freins pour accéder à Molière. La langue, là, il n'y a plus de difficulté de langue. Hein. C'est une langue, celle qu'on parle aujourd'hui. Et puis, les références culturelles, où là, sont employées des références culturelles que nous connaissons de notre époque, et non pas les références culturelles du XVIIe siècle.
Il y a encore une autre chose qui est formidable, c'est que ce sont les comédiens de la Comédie française qui lisent ces textes pour les auditeurs, pour la jeunesse. Une interprétation, ça apporte aussi beaucoup à la compréhension, et interpréter ça par des comédiens les plus extraordinaires, c'est juste un cadeau.
Oui, vous êtes d'accord avec ça, Claire Berest, que même avec le texte original de Molière joué par de grands comédiens, la Comédie française et d'autres, hein, ça apporte une autre lumière aussi par rapport à la salle de classe pour les élèves.
Ah oui, c'est évident. Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui est encore plus intéressant, je dirais, c'est la confrontation des mises en scène, de manière à ce que les élèves comprennent que le texte, c'est une sorte de partition dont vont s'emparer des comédiens, des comédiennes, un metteur en scène ou une metteuse en scène, pour faire vivre le texte. Et donc, cette confrontation, elle amène une sorte de polysémie du texte, du coup, assez souvent, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un morceau de la pièce et le montrer avec différentes mises en scène. Et montrer où le curseur, par exemple, du comique ou du tragique a pu être mis selon les choix.
Et parfois, vous utilisez un rappeur, un artiste qui a réécrit Molière aussi, comme une autre porte d'entrée sur l'œuvre de Molière ?
Non, honnêtement, non. Non, mais c'est une piste certainement tout à fait intéressante.
C'est pas une piste qui vous choque, en tout cas.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Claude Bourqui, est-ce qu'il y a des pièces de Molière qui peuvent plus vraiment intéresser les lycéens tels qu'ils sont aujourd'hui à notre époque ? Des pièces pour
Molière,
l'instant démodées.
Il y a plusieurs pièces de Molière qui, je dirais un peu malheureusement, ont disparu en quelque sorte des radars du répertoire pour diverses raisons, un peu conjoncturelles, en raison de l'image même qu'on a de Molière. Si on prend une pièce comme Pichet, par exemple, qui pourtant a quelque chose qui pourrait intéresser des lycéens de nouveau, puisque ça raconte en quelque sorte la naissance de l'amour. Et voilà. Ou d'autres pièces comme par exemple, ce sont souvent des pièces qui sont accompagnées de musique, ou des pièces qui reflètent un univers galant, comme on dit au XVIIe siècle, et donc qui parlent beaucoup d'amour. Il y a une espèce de Molière romanesque qu'on connaît mal, qui ressemble un peu à Marivaux, c'est le cas de La Princesse d'Élide, par exemple aussi, c'est le cas aussi de Don Garcia de Navarre. Ces pièces-là ont en quelque sorte un peu disparu du répertoire de Molière. Peut-être parce que simplement Marivaux l'aura remplacé ici, et je pense qu'un professeur de lycée qui souhaitera parler de la découverte de l'amour, par exemple, va plus facilement s'orienter vers une pièce de Marivaux que
les jeux de l'amour et du hasard.
Typiquement, alors que ces pièces-là existent néanmoins. Mais justement, je ne pense pas qu'en soi, elles n'intéresseraient pas. C'est plutôt des effets de circonstances ou de mode.
Alors, Don Juan, on dit que ça a été très à la mode dans les années 80. Peut-être
absolument.
Un peu moins aujourd'hui, en même temps, quand même, l'histoire de cet homme qui enchaîne les découvertes, ou plutôt les séductions, hein, comme un combat, à chaque fois, ça a quand même quelque chose d'assez, enfin, qui nous fait penser à des débats modernes. On ne va pas dire qu'il serait au cœur d'un MeToo aujourd'hui, Don Juan, mais en tout cas, il aurait des problèmes, non ? Je ne sais pas.
Si, justement, je pense qu'il y a encore. Don Juan est une pièce qui a un destin curieux. Hein. C'est une pièce qui a disparu assez rapidement de l'affiche à l'époque de Molière, qui a été assez peu considérée tout au cours du XVIIIe siècle et qui est revenue au premier plan à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et qui a connu ensuite un succès fulgurant dans les dernières décennies du XXe siècle, dans une époque un peu, entre guillemets, post-année 68. Et de ce point de vue-là, c'était lié à une forme de... Il y a eu une superposition avec le motif de Casanova, entre autres.
Oui.
C'était un peu un éloge de la libération sexuelle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui a un peu fait long feu maintenant, mais qui serait justifié de revenir au premier plan à la suite des affaires récentes qu'on a vues ces dernières années. Donc on peut entrevoir, on peut prédire, on peut peut-être même souhaiter un renouveau du Don Juan de Molière sur les scènes.
Yann Novak, ça fait partie dans votre programme 10 sur 10, Don Juan figure parmi les 15 pièces de Molière réécrites.
Oui, absolument. Et on a confié la réécriture à Kwantawa, un auteur camerounais, qui a dit que Don Juan, c'est un personnage africain, un personnage de son pays, qui doit se marier, qui doit se remarier, qui cherche toujours à conclure une aventure par un mariage. Donc il était très heureux d'avoir reçu cette pièce à la réécriture.
Et il dit que c'est un polygame ou pas, Don Juan ?
Selon lui, oui. Il est polygame.
Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Bourqui, spécialiste de l'œuvre de Molière ? Un polygame ou pas ?
Bah, disons que dans la version originale de Molière, telle qu'il la concevait, enfin, telle qu'on peut supposer qu'il la concevait, c'est d'abord le côté, comment dire, offensant contre l'institution même du mariage qui motivait la démarche de Molière. C'est quelque chose d'assez agressif contre l'Église en général et qui met beaucoup moins l'accent sur la dimension, comment dire, de conquête amoureuse. Mmh. Hein. C'est quelque chose qui viendra un peu après Mozart, en quelque sorte, hein, après la version de Mozart. Hein. Donc, cela dit, ça n'empêche pas que la proposition de l'auteur en question ici soit
alors
tout
peut-être,
à fait justifiée.
Peut-être plutôt polyamour que polygame, parce que le polygame, évidemment, ne fait pas la critique de l'institution du mariage. Au contraire, il a plutôt envie de les collectionner. Claire Berest, par exemple, Don Juan, est-ce qu'il y a des pièces dont vous savez que ça ne pourrait pas marcher en classe ? Et vous allez vous interdire de les choisir ?
Non, je crois qu'il faut, enfin, il faut pas s'interdire. Après, c'est une question d'appétence. Disons que j'ai moins d'appétence pour personnellement pour Don Juan, pour le Misanthrope que pour d'autres pièces. Donc, je vais aller un peu là aussi, mon cœur me porte. Parce que je pense que je suis plus efficace aussi quand je vais de ce côté-là. Mais je voulais rebondir sur la réécriture de la pièce, que je pense intéressant aussi, c'est d'aider les élèves à soit réécrire ou soit imaginer des scènes qui ne sont pas dans la pièce, mais par exemple dans une pièce, imaginer ce qui va se passer après. Donc, je reprends l'exemple de l'école des femmes, parce que c'est une pièce que je connais bien, c'est d'imaginer le dialogue qu'il y aurait à la fin de la pièce entre Agnès et Horace qui se retrouvent face à face. Oui. Promis au mariage. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Et qu'est-ce qu'Agnès lui dit ?
Quel reproche elle va lui faire ?
Parce que finalement,
laissé dans cette ignorance ?
Voilà. Par rapport à Horace en particulier, qui est son amoureux, qui en fait n'a pas été très actif, n'a pas forcément été à la hauteur d'Agnès. Et qui peut-être a pu le décevoir. Ou alors, imaginez ce que j'ai fait avec des élèves, le procès que l'on va faire ensuite à Agnès, pas Agnès, à Arnolphe. Donc, l'idée étant qu'Agnès, quelques années après, prend conscience qu'il est temps, en fait, qu'elle demande réparation, qu'elle n'arrive pas à se reconstruire, que ce qu'elle a vécu est encore là en elle, même si elle s'est mariée, même si elle s'est mariée avec l'homme qu'elle aime. Finalement, elle a besoin qu'on dise que ce qu'elle a fait, elle n'avait pas, ce qu'on lui a fait, n'avait pas à le subir. Et ça, c'est quelque chose dont les élèves se sont emparés avec grand bonheur. Hein. Donc, écrire la plaidoirie de l'avocat qui défend le point de vue d'Agnès, voire de celui qui essaie de comprendre ce qui est arrivé à Arnolphe et comment Arnolphe peut-être expliquer son comportement. Mais là, il y a quelque chose qui aide à comprendre la pièce et à la rendre très, très actuelle dans ce contexte,
un type
notamment
qu'on aurait
du consentement.
Oui, c'est ça, un type qu'on aurait pu jeter en pâture aux réseaux sociaux aussi.
Hein. Oui, tout à fait. Et là, à ce moment-là, les élèves s'emparent complètement de ça. Donc, les élèves, ils ont écrit leur texte dans ce contexte-là et ils voient les ramifications. Donc, j'ai des élèves qui ont écrit, par exemple, appelons un port, pour faire allusion au mouvement qui était en place.
Ouais.
D'autres qui ont dit, mais il n'y a pas de mot, il faudrait qu'on invente un mot. Comment on pourrait créer ce mot qui dirait qu'on aime un enfant, mais on n'a pas le droit ? Peut-être qu'on pourrait inventer le mot pédophile. Ils ont travaillé sur. Donc, et là, vraiment, ils se sont emparés et c'est là. La réécriture, c'est eux qui l'ont faite d'une certaine manière.
Yann Novak, on va vous laisser le mot de la fin. Finalement, comment faire vivre l'œuvre de Molière, dépasser les difficultés, au risque aussi de faire, bien sûr, hein, des confusions historiques, puisque Claude Bourqui nous a bien rappelé dans quel contexte avait été écrite chaque pièce, hein, un contexte bien précis par rapport au pouvoir, par rapport à la volonté de Molière. Évidemment, plus on réécrit, plus on part sur autre chose, plus on s'éloigne probablement aussi de l'objectif initial.
Oui, moi je veux dire que Molière reste toujours un des auteurs les plus contemporains qu'on a. Mais il n'est pas un auteur vivant. Et je pense que la réécriture et le retravail par des auteurs vivants d'aujourd'hui, qui sont aussi les dramaturges qui se posent les mêmes questions, mais dans le monde d'aujourd'hui, peut donner la deuxième vie à Molière. Pour rebondir à Don Juan, moi j'ai découvert le Don Juan en lisant la pièce d'Éric Emmanuel Schmid, La nuit des Valognes. Parce que là, il fait le procès à Don Juan à travers les 5 femmes que Don Juan a abusées, a trompées. Et c'est comme ça que c'est ça qui m'a donné envie de lire, de relire l'histoire de Don Juan. Parce que Éric Emmanuel Schmid m'a donné une autre vision de ce qui s'est passé. Et ça, c'est formidable.
Et ben voilà, ne rien s'interdire pour mieux transmettre l'œuvre de Molière, si vous êtes enseignant, adulte en tout cas, et en parler avec les jeunes. Merci à vous tous, Claire Berès, Yann Nova, Claude Bourqui, d'avoir été en direct avec nous pour cette émission qui reste disponible en podcast. Et vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions de RFI sur cette année Molière, 400 ans après sa naissance, notamment l'émission de Vive Voix, présentée par Pascal Paradou. Dans quelques instants, ce sera la chronique du psychologue Ibrahim Agirou à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Ce sera juste après une des meilleures plumes du rap français, Lucio Bukowski, Obsolescence programmée.
Est-ce que la corde au cou d'un député pendu est un bien public? Si oui, les impôts servent à quelque chose de ludique. Vos dialogues dans le métro n'ont pas de sens comme un opéra rock. La République est un jeu de merde, Michel Larocque. Chercher le sens de la vie n'est qu'une vaine question. Les gouttes de pluie sur la vitre indiquent la direction. Avec la télé, le coca, l'oiseau serait obèse. Lui aussi voterait tous les 5 ans pour des connards obscènes. C'est pas de ma faute si l'époque a un cul de femelle. Et j'attends le jour où ces chiens de garde viendront de chez Neff. Oublie les formes, débarque au pôle emploi avec un staff. Plus de chances de finir disque d'or que de trouver un taf. Je dessine des sillons de fourchettes dans ma purée de vie. Dessine des millions de rêves dans ma durée de vie. Ma droite est dure éthique, ma gauche est pure épique. En plein poids le temps, le change en aventure épique. Fils de 10 000 ans de deal entre l'art et Dieu. Fils de 10 000 ans de rime, tout mon pas les vieux. Tout me sort par les yeux, votre morale est à chier. L'évolution c'est passé de Socrate à PHL. Vas-y, vends-moi ta lessive et ton suffrage de merde. Ta soumission, ton iPhone et ta fausse rage de merde. Tous parricides, le fric est devenu votre seul père. Moi je préfère péter la dalle qu'être le fils de son père. Ya, ya, vous haïssez la liberté parce qu'elle se mérite. Vous préférez des barres chocolatées, les chaînes débiles. Morceau de néant sous des voiles de chair. Seul internet vous sépare de l'étoile de mer. As-tu le numéro d'une âme dans ta carte SIM? As-tu trouvé une femme pour ton avatar de Sims? Tu préfères l'oubli comme te faire mettre ivre? T'ignores qui est Spinoza, tu écoutes Maître Gims. L'humanité n'est plus qu'une vieille dépouille. Si Jésus revenait, l'OMC lui découperait les couilles. Obsolescence programmée de la marche de paix. Le constat est clair, bienvenue à l'âge de pierre.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, vous répondez à la question « Comment parler de la mort aux enfants ?» C'est quand même une question qui est difficile. Et il est surtout difficile, je dirais, de tenir un discours de vérité sans rendre les enfants tristes ou traumatisés.
Tout à fait, Emmanuel. C'est un sujet très délicat pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de parents. En réalité, parler de la mort, c'est quand même, il faut le dire, conforme aux objectifs de l'éducation. On n'éduque pas ses enfants pour soi ou comme si on ne devait jamais quitter ce monde. Voilà pourquoi il faut en parler. Il faut travailler à rendre nos enfants autonomes sans trop les exposer. On les éduque pour qu'ils soient heureux avec nous, heureux avec les autres, mais surtout pour qu'ils puissent continuer leur chemin, même en notre absence. Voilà pourquoi parler de la mort à ses enfants, c'est aussi construire les fondations pour une nécessaire préparation, une nécessaire résilience, puisque la vie, elle doit continuer même sans le parent.
Et que nous ne sommes que de passage sur Terre.
Mais alors, exactement.
Quelle est la meilleure attitude pour ne pas déstabiliser les enfants lorsqu'ils se demandent si leurs propres parents vont mourir un jour, par exemple. Ça fait partie des grandes angoisses des enfants.
Oui, c'est une grande angoisse. Un parent possessif ne peut pas réussir cette préparation, puisque ce qui caractérise un parent possessif, c'est le manque de distance émotionnelle. Ces parents possessifs ne se sont pas réalisés humainement eux-mêmes et ils font comme si leur mort entraîne celle de l'enfant, alors que la vie ne meurt pas, Emmanuel.
On comprend bien les dangers de ce type de relation, mais alors comment s'y prendre, Ibrahima Girou ?
En tant que parent, je ne dois pas parler de la mort comme si j'étais moi-même déjà mort. Concrètement, la discussion peut être très simple et commencer de façon très positive avec le rêve de l'enfant. Par exemple, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand ? Donc, on peut encourager nos enfants à parler, à exprimer leurs rêves. Et ce serait bien de leur montrer que nous croyons qu'ils vont y arriver avec ou sans nous. Mmh. Donc, c'est très important de leur montrer ça. Donc, du coup, ils comprennent qu'ils vont y arriver, non pas parce qu'on sera toujours là avec eux, mais parce qu'en réalité, c'est en eux-mêmes qu'il y a déjà les forces pour qu'ils réussissent de belles choses dans leur vie. Donc, ensuite, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, il faut adapter la façon de parler. On peut montrer les étoiles qui scintillent dans le ciel pour désigner les morts, on l'a tous fait, ou plutôt rendre visite aux morts au cimetière. Vous voyez, les prières, certaines cérémonies dédiées aux morts permettent de faire un pont entre les deux mondes dans la tête et dans le cœur de nos enfants. Donc il faut quand même, Emmanuel, un minimum de spiritualité dans l'éducation. Et dans certaines ethnies en Casamance, par exemple au sud du Sénégal, on fait la fête quand une personne âgée décède, non pas parce qu'on en est débarrassé, mais parce que l'on raconte plein de belles choses qu'elle serait en train de vivre là où elle est et qu'il n'y a donc pas de raison de s'attrister sur son sort. Donc la vie ne meurt pas, elle se transforme et du coup la meilleure préparation de nos enfants à la mort, c'est une attitude positive face à la mort.
Est-ce qu'il y a, Ibrahima Girou, une période plus indiquée de la vie où les parents doivent préparer leurs enfants à la mort ? Un âge où c'est moins difficile ?
Comme il y a différentes façons d'en parler, donc il n'y a pas vraiment d'âge en réalité. Il faut juste comprendre pourquoi on éduque nos enfants. C'est ça qui est déterminant. Et on comprend qu'il faut avoir une attitude positive face à la mort et on comprend du coup que tout ce que l'on fait renforce le cœur de nos enfants et les prépare sans être pessimiste. C'est une préparation positive. Par exemple, les discussions, les activités que l'on mène avec les enfants, le travail à la maison ou en dehors de la maison, les différents conseils qui sont autant de cadeaux, l'exemplarité du parent, la clarté des règles et leurs limitations, tout cela dans une attitude positive et optimiste, rentre dans la préparation de nos enfants. C'est cela qui permettra à nos enfants, quand ils seront confrontés à des difficultés de la vie en notre absence, de puiser du coup dans un héritage riche et diversifié et de se mettre dans l'attitude optimiste qu'ils auront copié en nous pour faire face à ces difficultés. Donc il est évident que de cette façon, on continue, Emmanuel, à vivre dans le cœur de nos enfants puisque c'est là-bas qu'ils puisent pour faire face aux nouveaux défis qui seront les leurs.
Et la question de la semaine à méditer pour les parents sur cette difficile question de la mort.
Emmanuel, comment bien préparer nos enfants à notre mort ? Si de notre vivant, nous ne laissons pas de place à leurs rêves.
Merci Ibrahima Girou pour tous ces conseils, toutes ces réflexions sur ce sujet difficile. Vos chroniques sont à retrouver en podcast sur RFI.fr ou sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Merci aussi au studio de Dakar, RFI, Mandinkan et Fulfulde. Sarah Doumbia était à la technique. Et un grand merci à vous, Ibrahima Girou, et bonne journée.
Bonne journée, Emmanuel. Au revoir.
7 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci à l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, David Brocouet. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.